Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 22 mai, il est 20h et vous êtes en train d'écouter votre émission de vulgarisation scientifique préférée, l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Générique.
L'Happy Hour scientifique.
Ah, c'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Quel bonheur de vous retrouver pour une émission un peu particulière puisqu'il s'agit de la 50e Happy Hour scientifique. Wouh ! Alors on a décidé de faire une émission un peu spéciale, un peu méta. Je vous propose de plonger dans les coulisses de notre métier, enfin pour la majeure partie des personnes autour de la table, c'est notre futur métier. Aujourd'hui on va parler de journalisme scientifique et ce soir nous avons l'honneur de recevoir Carole Châtelain, présidente de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques de la presse et de l'information. Bonsoir Carole.
Bonsoir à tous et toutes.
Autour de la table, il y a aussi Ilona.
Bonsoir.
Qui nous a préparé un tour de l'actualité scientifique avec des gorgées de science. Cléo.
Hello.
Qui va nous parler dans sa chronique de l'enquête de la journaliste Lise Barnéhoud. Sacha.
Salut, salut.
Qui nous a créé un petit jeu surprise pour le Caps ou pas Caps, sans oublier notre Jocelyn National à la Réal.
Bonsoir à tous.
Merci à toutes et tous d'être là pour se mettre en jambes dans cette 50e émission. Je laisse la main à Ilona pour les gorgées de science. Jingle.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça ?
Bien le bonsoir tout le monde. Alors, pour le 50e épisode de l'Happy Hour scientifique, j'ai tenté de trouver des petites news autour de ce beau chiffre. Mais je n'ai rien trouvé de bien passionnant. Mis à part le fait que ce mois-ci, l'Agence spatiale européenne fête ses 50 ans. Mais bon, j'ai vite bifurqué de mon idée parce que je la trouvais bien contraignante et franchement pas très marrante. Je voulais tout de même rester un peu dans le thème. 50e épisode consacré au journalisme scientifique, science et société. Ah, je crois avoir trouvé. Donc, aujourd'hui, ça sera des gorgées de science, mais à la place d'un verre bien frais, je vous en propose un qui traîne sur la table du jardin depuis un petit moment.
Super.
Mais qui vous désaltérera tout de même. Ouais, je pitch très très mal mon sujet là, j'en suis consciente. Bon, j'arrête le suspense. Plongeons dans le vif du sujet. On va parler quelques petites minutes de la vision des sciences en France. En février dernier, a été publié le dernier Eurobaromètre sur les connaissances et perceptions des citoyens européens en matière de science et de technologie. L'Eurobaromètre, c'est l'instrument de sondage de l'Union européenne, utilisé pour suivre l'état de l'opinion publique en Europe sur différentes attitudes des sujets de nature politique ou sociale. Pour cette enquête sur la vision des sciences au sein de l'UE, qui a été commandée par la Commission européenne, le cabinet d'études et de conseil Verian a sondé 34 207 personnes dans les 27 États membres de l'UE et aussi dans 8 pays hors UE entre le 12 septembre et le 10 octobre 2024. Pour garantir la représentativité démographique et géographique des résultats, les enquêtes Eurobaromètre s'appuient sur un échantillon d'au moins 1000 personnes âgées de 15 ans et plus par pays. Les répondants sont sélectionnés au hasard et l'échantillon total est pondéré. Bref, assez dit de méthodo, venons-en aux résultats. Je ne vais pas pouvoir vous résumer tout le rapport. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ce petit trésor de 295 pages.
Waouh !
En soi, tout ce qui est dit dans cette enquête est pertinent et hyper intéressant pour le journalisme scientifique, mais il fallait bien faire des choix, parce que je n'ai que quelques minutes et elles s'écoulent. Donc, j'ai sélectionné quelques résultats qui me parlaient particulièrement sur la vision non seulement des sciences, mais de l'information scientifique, et me suis focalisée sur la France. Par exemple, lorsqu'il est demandé aux personnes dans quelle mesure elles se sentent informées sur différents sujets relevant de la science, on découvre qu'en France, 37% des répondants pensent être très bien informés, 50% moyennement informés et 13% très peu informés sur les problèmes environnementaux. Pour ce qui est des découvertes médicales récentes, la balance change. 15% des répondants se disent très bien informés, 49% moyennement et 36% très peu. Et enfin, pour ce qui est des nouvelles découvertes scientifiques et des développements technologiques, seulement 16% se disent très bien informés. Un peu moins de la moitié moyennement informés et 36% se disent très peu informés. Verdict, pas si surprenant que ça, il y a encore du boulot à faire. Mais comment s'informent les Français sur les sciences au juste ? Eh bien, la télé reste la grande gagnante, avec 64% des répondants disant s'informer sur les sciences par ce biais. Un résultat qui n'est pas sans écho avec les décisions d'enlever de l'antenne certaines émissions parlant de science, sujet qu'on aura l'occasion d'aborder, je pense, avec notre invité. Après la télé, ce sont les réseaux sociaux qui prennent la relève avec 37%. Et en troisième, c'est Bibi, c'est la radio et les podcasts à 22%. Petit tour de table. D'après vous, qui sont les mieux qualifiés pour expliquer l'impact des développements scientifiques et technologiques sur la société ?
Les scientifiques eux-mêmes, non ?
C'est ça, les acteurs et actrices de la recherche, j'aurais dit, peut-être.
Eh bien, vous avez le même avis que la plupart des Français. Sachant qu'ils pouvaient sélectionner trois options au maximum, 51% pensent que ce sont les scientifiques du secteur public qui sont les mieux qualifiés, suivis par les scientifiques du secteur privé à 39%, puis des médecins généralistes et spécialistes. Et j'ai la grande joie de vous annoncer que les journalistes figurent dans le top 5 du classement.
Ah, quand même.
À 23%, juste en dessous des associations pour la protection de l'environnement. Donc la majorité des Français pensent que ce sont les scientifiques qui sont le plus à même de rendre compte de l'impact de la science sur la société. Mais 63% pensent qu'ils ne prennent pas assez de temps pour discuter avec eux de leur travail. Moi, je vous avoue que ça me fait un peu de peine ce résultat. Parce qu'en tant que personne en formation de journalisme scientifique et journaliste scientifique, on a affaire à tout de même beaucoup d'entre eux qui essayent. Enfin, parlons quelques instants des liens entre industrie et science. Un peu plus de la moitié des Français sont d'accord, tout à fait, ou plutôt pour dire que l'on ne peut plus faire confiance aux scientifiques pour nous dire la vérité sur des sujets de controverse en matière de science et technologie, car ils dépendraient de plus en plus de l'argent de l'industrie. Ce n'est pas pour autant que les sciences passeront à la trappe, à condition que les politiques publiques ne les ostracissent pas, puisque 86% estiment que l'intérêt des jeunes pour la science est crucial pour l'avenir. Le temps s'est court, donc je vais devoir m'arrêter là, mais pour ceux qui voudraient creuser un peu plus loin, qui ont encore soif après ces quelques gorgées et qui n'ont pas trouvé tous ces pourcentages imbuvables, l'Eurobaromètre, numéro spécial 557, couvre une panoplie de sujets comme la perception des scientifiques, l'opinion sur l'utilisation de l'IA pour la recherche ou encore la diversité, l'inclusivité et la responsabilité sociale dans les sciences et technologies. Et il est en accès libre sur l'outil phénoménal qu'est Internet.
Merci beaucoup Ilona pour cette introduction très riche. Il y a tellement de choses dont tu as parlé, dont on va parler plus tard. Les plateformes, mais aussi la popularité des sciences auprès du public. Je te propose, Carole, qu'on passe à la première partie de l'interview. Tu es journaliste, présidente de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. On est ravis de te recevoir. L'association fête ses 70 ans cette année, et plus précisément ce week-end, le samedi 24 mai. Mais avant qu'on se mette en jambes, je te propose un petit exercice. On va passer au shot à l'invité.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
Les consignes sont simples. Je vais te poser des questions très basiques. Il va falloir répondre du tac au tac.
On y va.
Est-ce que t'es prête ?
Ah oui, je suis prête.
C'est parti. On est au bar, Carole, tu prends quoi ?
Malheureusement, je prends un Perrier, même si actuellement, c'est peut-être pas ce qu'il faut boire en priorité, mais un Perrier.
HPI ou AJSPI ?
Oh bah, AJSPI.
Reportage ou portrait ?
Ah, j'aime bien les deux, mais reportage.
Télé ou Twitch ?
Ah, télé.
Apéro AJSPI ou conférence de presse ?
Apéro à GSPI.
Pigiste ou posté ?
Ah, les deux, là, je choisis pas.
Newsletter ou Harry Potter ?
Ah, Harry Potter, j'avoue, honnêtement, j'en ai jamais vu. Hein. Alors, newsletter.
Conflit de canard ou conflit d'intérêt ?
Eh ben, j'étudierai les conflits d'intérêt autour d'un conflit de canard.
Trop tard, il restait la question piège qui est Aurel ou Foucard. Et moi, je choisis Stéphane. Bon, un peu plus de sérieux, est-ce que tu veux nous parler de qui sont les membres de l'AJSPI et pourquoi cette association s'est formée ?
Et tout à fait, avec grand plaisir. Et d'abord, je voudrais aussi préciser qu'il y a un autre anniversaire qu'on peut fêter, c'est le mien. Mais bon, voilà.
Mais non, aujourd'hui, là.
C'est aujourd'hui.
C'était hier. Mais bon, puisqu'on en est à fêter des anniversaires.
Joyeux anniversaire.
Voilà, c'était pour plaisir de vous entendre chanter.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Carole et le chat.
Joyeux anniversaire.
écoutez, j'ai jamais eu un si beau chant d'anniversaire. Non, ça me fait vraiment plaisir en plus. Donc, merci. Ça, c'était l'anecdote. Alors, la GSPI, elle a été fondée en 1955, parce que, bon, c'était quand même après l'invention de l'imprimerie, hein, je vous situe, pour vous qui êtes la jeune génération. Et pourquoi en 55 ce sont une dizaine, voire, ils étaient un peu plus, ils étaient une vingtaine de journalistes, tous des hommes. C'est l'époque qui a voulu ça, qui se sont réunis, devinez autour de quoi ?
Les sciences peut-être ?
Non.
Autour d'un verre, oui.
D'un verre.
Ah, mais oui, j'ai rien compris. J'étais pas dans la...
Ils se sont réunis autour d'un verre à Paris et ils ont décidé qu'il fallait vraiment fonder une association de journalistes scientifiques. Ça n'existait pas. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment une sorte de révolution qui était en train de se produire, puisque c'est l'arrivée de l'ADN, des premiers brins d'ADN qui ont été découverts. C'est aussi le nucléaire qui sortait un peu des laboratoires. Il y avait aussi l'exploration spatiale qui commençait, notamment en URSS. Donc, ils se sont dit que pour rendre compte de tout ça, il fallait absolument qu'il y ait des journalistes et qu'ils soient un peu indépendants des pouvoirs et des institutions existantes. Donc, ils ont été des pionniers, ils ont eu cette intuition. Ils ont fondé la JSPI et depuis, nous sommes toujours là et on va peut-être évoquer ce qu'on fait et pourquoi on existe. Voilà.
Bah oui, justement, qu'est-ce qu'apporte la JSPI aux membres de son association ?
Alors, la JSPI, aujourd'hui, elle a plus de 300 membres. Tous horizons confondus, c'est-à-dire tous médias confondus, y compris les plateformes actuelles, les réseaux sociaux, les youtubeurs, les tiktokers, tout le monde est bienvenu, les photographes, les maquettistes, enfin, tous ceux qui travaillent autour de la science sont les bienvenus, évidemment aussi les rédacteurs, qu'ils soient postés, qu'ils soient indépendants, et toute génération confondue, c'est ça la grande force aussi de l'association. Et le but, c'est à la fois un but politique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est défendre nos convictions de journalistes scientifiques. On tourne vraiment autour de la spécificité du journalisme scientifique. On estime que c'est un métier qui a des spécificités par rapport au journalisme généraliste ou au journalisme sportif ou au journalisme économique. Enfin bref, nous sommes des journalistes scientifiques. Et donc on a ce côté de défense de ce que l'on estime être l'éthique du métier, mais on a aussi tout le côté solidarité. Puisqu'on avance bien que si on est ensemble, et si on échange, et si on se forme, et si on fait des voyages ensemble. Et ça, notamment, on le fait pour les journalistes indépendants qui ont plus de mal à accéder à l'information. Donc c'est tout ce réseau de solidarité entre journalistes de tous les horizons, journalistes connus, journalistes moins connus, jeunes, moins jeunes, etc. Et ça fait un vivier extraordinaire de dynamisme. Nous sommes une association extrêmement dynamique. On a des dizaines d'activités que nous proposons.
Donc c'est hyper riche à l'intérieur, mais de l'extérieur, est-ce que tu penses que depuis 70 ans, la fondation de la JSPI, le métier de journaliste scientifique est une profession reconnue ?
Beaucoup plus qu'elle ne l'était lors de la création. C'est une des raisons de la création de cette association, c'est qu'à l'époque, le pouvoir était au sachant, le savoir était au sachant. Et ça ressort de ce que tu disais dans ton introduction, qui était très intéressante, sur les chiffres que tu as mentionnés. Ils sont vraiment très éclairants. Et où les Français continuent à penser que la science vient des scientifiques, qu'en tout cas, qu'ils sont les mieux à même de porter cette parole. Et à l'EGSPI, nous pensons que certes, mais que les journalistes le sont mieux, puisqu'ils ont une distance déontologique, une distance critique, une analyse et une méthode que nous développons, que nous défendons. Et donc, le journalisme scientifique s'est imposé, a pris de l'ampleur et aujourd'hui est reconnu. À l'époque, il l'était beaucoup moins.
Et est-ce que quand la JSPI s'est créée en France en 1955, c'était la première association ou ça existait aux États-Unis ou en Angleterre, ce genre d'association ?
Non, les associations étrangères n'existaient pas. C'était parmi les premières à être créées. Et aujourd'hui, la JSPI, justement, tisse des liens avec des associations européennes et mondiales, des associations de journalistes scientifiques. Ce n'est pas toujours facile, on n'a pas toujours les mêmes approches. Et puis, évidemment, je n'ai rien à apprendre à personne en disant qu'en 2025, c'est un peu compliqué d'être journaliste scientifique dans certains pays. Et donc, la JSPI, là aussi, monte au créneau. Et il prend des décisions et il mène des actions pour défendre nos confrères, notamment outre-Atlantique.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait parler de la situation aux États-Unis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été un peu soulevé déjà par Ilona, c'était que le 3 mai 2024, les vice-présidents de la JSPI, Laurent Simon, Agnès Vernet et toi-même, Vous êtes allé discuter avec la ministre de la Recherche Sylvie Retailleau à la suite de la tribune parue dans Libération pour défendre la place de l'information scientifique à la télévision, notamment sur le service public. Et c'était en réaction à l'arrêt de la série documentaire Vers de Rage et à l'annonce de l'arrêt du MAC de la Santé sur France 5. Qu'est-ce que la JSPI et les journalistes scientifiques ont pu tirer de cette discussion? Et j'avais une autre question qui est peut-être un peu plus dramatique. Est-ce que le journaliste scientifique est en train de perdre du terrain, de disparaître?
Alors, la réponse est catégoriquement non. Le journaliste scientifique ne disparaît pas et ne perd pas de terrain. Ce que nous avons fait, c'est que la JSPI, elle a un rôle de défense d'une méthode de travail pour défendre ce qu'est un journalisme scientifique. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. Hein. Comment il faut être formé? Qu'est-ce que c'est qu'une enquête scientifique pour un journaliste? Mais nous défendons aussi la présence de journalistes scientifiques dans les rédactions. Et la disparition de ces émissions qui étaient faites en sourdine, c'est-à-dire que ce que nous essayons de faire à la DGSPI, c'est d'interpréter les signaux faibles, ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire de remarquer que certaines émissions disparaissent, d'autres sont reformatées. On peut penser par exemple à des émissions sur France Inter comme La Tête au Carré ou La Terre au Carré, à qui parfois on demande de réorienter un peu leur ligne éditoriale pour être peut-être un peu plus fun, un peu moins... Voilà, donc tout ça pour nous, ce sont des signaux auxquels on est extrêmement attentif. Et chaque fois qu'on constate ce que nous estimons une atteinte qui est défavorable à notre métier, nous montons au créneau. C'est donc ce que nous avons fait, ce que tu viens de rappeler, et nous avons effectivement sollicité une rencontre avec France Télévisions pour discuter avec la direction de France Télévisions de ce qui était en train de se passer, et puis avec notre ministre de l'époque, Sylvie Retailleau, pour aller effectivement expliquer l'intérêt pour eux aussi, le gouvernement et les élus, de défendre la position des journalistes scientifiques. Et nous avons été écoutés, nous avons été très bien reçus par la ministre Sylvie Retailleau. Nous avons pu faire valoir nos arguments. Il y a eu des discussions entre le ministère et France Télévisions. Et nous avons, et je le sais de source sûre, puisque je le sais de la direction même de France Télévisions, c'est nos interventions qui ont permis de rétablir notamment les magazines de la santé. Donc nous avons une vraie force de frappe.
Et nos défenses.
Voilà. Et nous défendons aussi, j'en profite pour dire, nous défendons aussi au sein de la JSPI nos membres. C'est-à-dire quand nos membres sont attaqués, ce qui arrive maintenant relativement fréquemment quand ils ont des intimidations ou quand leurs émissions sont mises en danger, là aussi nous montons, peut-être de façon moins publique, mais nous montons au créneau pour les défendre. Je pense notamment à une affaire qui a eu lieu il y a quelques années avec David Larousserie du Monde.
On va en reparler.
Voilà. Là, nous étions allés dire qu'il était tout à fait inacceptable que des tribunes paraissent contre le travail d'un journaliste. Voilà.
Un travail qui avait été en plus bien fait.
Tout à fait.
Et peut-être au détriment de certaines disciplines, on voit qu'il y a des journalistes spécialisés comme les journalistes sportifs qui sont répandus et qui sont charismatiques. Comment faire pour rendre les lecteurs, les spectateurs plus captivés par les sujets scientifiques?
Je pense qu'ils le sont. Je pense qu'ils sont captivés par les sujets scientifiques. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. D'ailleurs, les chiffres que tu donnais tout à l'heure le montrent. Après, pour être médiatisé, est-ce que vraiment c'est intéressant de devenir... Il y a certains noms. Vous parliez tout à l'heure de Stéphane Foucard. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même connu, peut-être pas forcément du grand public, mais on parle aussi, je parlais de la Terre au Carré, son animateur est connu. Donc je pense qu'il n'y a pas de... On peut tout à fait être journaliste scientifique et je reprends même si c'est pas un journaliste tout à fait scientifique, et puis qu'aujourd'hui il a des casseroles, si on peut dire, qui font que on aurait tout intérêt à l'oublier, mais c'est Nicolas Hulot par exemple, à une époque qui faisait des émissions qui étaient grand public avec un axe qui à l'époque était nouveau et qui était un axe science. Donc non, je pense qu'on peut tout à fait être très très vulgarisateur et faire une science sérieuse.
Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, justement, avec la situation actuelle, on se rend compte du besoin crucial et de l'importance du journalisme scientifique?
Ah ben complètement. Ah oui, parce que le monde devient de plus en plus complexe et les gens sont en demande, en attente d'explications. Après, ce à quoi on fait face aujourd'hui, c'est la diversification des modes d'information. C'est ce que tu, encore une fois, c'est ce que disait cette enquête tout à l'heure. Comment les gens s'informent? Et nous, à la JSPI, on est extrêmement attentifs à ça parce que il va falloir qu'on s'adapte. Bien évidemment. Et vous, la jeune génération, c'est vous qui allez travailler, réfléchir pour vous adapter à cette nouvelle situation. Nous, l'ancienne génération, si je puis dire, sans faire du... voilà, on va pas jouer au vieux con. Mais, nous, on s'est adapté, par exemple, à l'arrivée d'Internet. Et beaucoup d'entre nous, quand nous avons commencé nos carrières, Internet n'existait pas. Donc, on avait des façons de travailler, des façons d'enquêter qu'on a dû adapter à l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, toutes les plateformes, tous les réseaux, maintenant, il y a même des façons de communiquer direct, c'est-à-dire le journaliste s'adresse directement à son public sans passer par une structure, sans passer par une rédaction, tout ça c'est vraiment important et c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais de nos 70 ans que nous fêtons ce samedi à Paris avec nos membres et puis des chercheurs. Et bien là, la table ronde que nous organisons le soir s'appelle « Comment informer sur les sciences demain ?» et notre plateau est formé de journalistes qui utilisent des créneaux contemporains que sont TikTok, que sont YouTube ou d'autres formes médiatiques, pour essayer de toucher le public. Alors, comment faire pour que ça reste avec une garantie de crédibilité et d'éthique?
Bah oui, justement, je sais que dans votre table ronde, vous recevez, je me souviens, Viviane de la chaîne YouTube Syllabus.
Oui, Viviane Lalande.
Et pourquoi c'est important de distinguer la communication scientifique du journalisme scientifique? Pour toi, c'est quoi la grosse différence entre les deux?
Ah ben c'est simple, c'est simple, pardon de le dire comme ça, mais il y a toujours eu cette grande distinction entre la communication et le journalisme. Quand on est journaliste, on sait la faire. Le grand public, peut-être moins. Mais nous, notre boulot de journaliste, c'est effectivement d'expliquer la différence entre journalisme et communication. Et c'est quelque chose qu'on fait tout au long de notre carrière quand on s'adresse aussi à des institutions ou à des entreprises. Où eux, ils ont plutôt un regard communicant et nous, on a un regard d'information. C'est tout simple, c'est que le communicant, lui, il doit vendre, entre guillemets, son entreprise, son information, son étude, il doit la vendre au public sous le meilleur angle. L'information, elle, c'est une analyse, c'est une synthèse, on regarde, on contextualise, on analyse, ça n'a rien à voir. Voilà, à partir de la même information, nous ne la travaillons pas de la même façon.
Et dans certains médias, il y a quand même des articles qui paraissent qui sont un peu... on réagit directement à une étude qui vient d'être publiée, on parle que de cette étude et basta, on prend les citations du communiqué de presse. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de faire de l'actualité scientifique?
Alors ça, c'est une façon effectivement de travailler qui pour moi n'est pas une façon dans laquelle qu'il faut continuer. Alors ça, c'est aussi le web qui a amené cette façon de travailler, parce que le temps est contraint. Les journalistes qui sont des journalistes web dans les rédactions ont peu de temps pour travailler. On leur donne pas l'opportunité de sortir, on leur donne pas l'opportunité de prendre deux jours pour faire une enquête comme on pouvait le faire auparavant. Et voilà ce que ça peut donner. Il faut lutter contre ça. Et lorsque effectivement, moi, je dirigeais des rédactions, notamment la rédaction de Sciences et Avenir ou de la Recherche, Le service web avait pour mission de ne pas être monosourcé. Il était hors de question de passer un papier avec uniquement comme source le communiqué de presse. Nous, déjà, enfin, là, c'est une question de méthodologie aussi, il faut remonter aux sources. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on vous donne, on vous explique une étude qu'il ne faut pas aller la lire vous-même en anglais. Principalement, donc là aussi ça demande une formation, il faut apprendre à lire une étude, tout le monde c'est pas donné dans le berceau, ça s'apprend, comment on lit une étude, qu'est-ce qu'un premier auteur, un dernier auteur, comment les statistiques, tout ça, bon ça s'apprend, c'est pour ça que la JSPI aussi a un grand rôle de formation des journalistes pour apprendre à lire ces études. Et donc, primo, retourner aux sources. Secondo, ne jamais être monosourcé. Donc, appeler effectivement d'autres sources qui ne sont pas en lien avec celles sur lesquelles vous travaillez pour leur demander des réactions. C'est le B.A.B.A. du métier.
Et bah, tous les challenges du métier de journaliste à l'heure actuelle, on va en parler. Merci Carole, on va faire une petite pause musicale avec la chanson Too Insistent du groupe indie pop franco-finlandais The Do.
What's so special? won't you let me go? Why won't you let me go now? Just let me grow. I'm still a tiny toad. What's wrong? It's been so long. Is it me?
Vous êtes sur l'Happy Hour Scientifique, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Campus Paris.
L'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Et vous venez d'entendre Too Insistent de The Do, une annonce qu'on peut dire Too Insistent, ça peut être trop insistant comme certains journalistes, on peut leur reprocher parfois. Et justement, on est sur la Happy Hour Scientifique, on parle de journalisme, de science et de journalisme scientifique avec Carole Châtelain, présidente de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Avant de reprendre notre interview, je vous propose d'écouter la chronique de Cléo. Cléo, l'antenne est à toi.
L'histoire que je vais vous raconter prend racine là où tout commence. L'œuf, issu de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, se dirige vers le lieu qu'il va élire pour domicile durant 9 mois, l'utérus. La cellule se divise une fois pour en donner 2, ces dernières se divisent à leur tour, et les étapes se répètent inlassablement. Voilà que certaines cellules en périphérie sortent du lot et se distinguent par leur agressivité envers les autres. Elles sont destinées à former le placenta. Cet organe qui gère la circulation des nutriments et des déchets entre le fœtus et la mère. La cellule œuf, elle, continue sa division encore et encore, jusqu'à former l'entièreté de nos organes. L'ADN, moitié hérité du père, moitié de la mère, se loge dans le noyau. Une sorte de mode d'emploi qui contient toutes les informations nécessaires au bon développement du corps. Alice, toi qui es une adepte de la génétique, j'imagine le plaisir que tu prends à réviser tes classiques.
Je suis fan, là.
Alors, vous vous demandez peut-être ce que je vous conte avec ma chronique qui ressemble à un épisode de « Il était une fois la vie ». Mais patientez, car la suite est des plus surprenantes. La plupart d'entre nous ici sur le plateau a assisté à quelques cours de SVT, voire même plusieurs amphis de bio. On nous a appris que nos cellules contiennent des caractéristiques génétiques uniques, sauf pour les jumeaux, et qu'elles nous sont propres. Mais savez-vous que nous hébergeons tous et toutes des cellules d'autres individus ? Certaines nous sont étrangères. Autrement dit, nos cellules humaines ne partagent pas toutes le même ADN. Écoutez. En 1969, en Californie, des chercheurs découvrent la présence du chromosome Y dans les lymphocytes de femmes enceintes.
Attends, mais les chromosomes Y détectés chez les femmes, il n'y a pas un petit problème ?
Oui, enfin, c'est vrai qu'on nous a appris que les chromosomes sexuels pour les femmes étaient XX et pour les hommes XY. À l'époque, Pas de doute pour les scientifiques dirigeant l'étude. Les mères ayant donné naissance à des garçons, elles hébergent des cellules issues de leur fœtus mâle. Quelques recherches et expérimentations plus tard, l'hypothèse se confirme. Des cellules fœtales voyagent dans le sang des mères. Alors là, vous allez me dire que nous n'avons pas tous un enfant, auquel cas, nous ne sommes pas tous concernés par ces intrus cellulaires. Oui, mais nous avons tous passé plusieurs mois à l'intérieur d'un ventre. Rappelez-vous du placenta qui s'occupe du trafic entre la maman et le bébé. Si les échanges se font dans un sens, ils se font également dans l'autre. Nous y voilà. Des cellules humaines maternelles traversent la barrière placentaire pour s'intégrer à nos organes et à nos tissus. Et ces cellules remontent à bien plus loin qu'on ne le pense. Mon petit frère a peut-être lui aussi hérité de certaines de mes cellules qui s'étaient incrustées chez ma mère, en souvenir de sa grossesse, qu'elle lui a passée à son tour. Et j'en rajoute une couche. Ma mère, dans son sang, possède sûrement des cellules de ma grand-mère, qu'elle a sûrement passées à mon frère et moi. Waouh ! L'épisode « Il était une fois la vie » à ce sujet aurait été fou. Mais ça aurait donné quoi ? Une sorte de meeting entre nos cellules familiales ? Dans la foulée d'expériences et de publications qui tentent de caractériser ce phénomène biologique inédit, émerge une série de questions. Et si ces cellules avaient quelque chose à voir avec les maladies auto-immunes ? Viennent-elles nous prêter main forte ou nous nuire ? Mais d'ailleurs, pourquoi le système immunitaire ne s'y attaque pas ? Et qu'est-ce que cela veut dire à propos de la notion du soi ? Nous serions donc tous et toutes un empiècement de cellules appartenant à d'autres, et non le résultat d'un soi homogène et autoconstruit, de quoi calmer l'ego de certains. Mais plutôt des multitudes chimériques.
Les chimères, c'est pas plutôt les créatures décrites dans la mythologie grecque, les centaures, les sphinx, les minotaures ?
Si, si. Ce terme évoque souvent un monstre mi-lion, mi-chèvre, avec une queue de serpent, représenté dans la mythologie grecque. Mais il s'applique dans ce cas aussi. On les qualifie de cellules micro-chimériques. Micro parce qu'elles sont présentes en infime quantité. Nous sommes donc tous des chimères. Bon, après, on peut s'imaginer avec des têtes de félin et des cornes si cela nous chante. Lise Barnéou, elle, préfère le terme de cellules buissonnières. En tant que journaliste scientifique, elle a enquêté pendant un an auprès de celles et ceux qui essayent d'élucider les mystères de ces cellules échangées pendant la grossesse. Son livre, publié en 2023, nous plonge dans les coulisses de la science, là où une découverte interroge, sème le doute et bouleverse ce que les scientifiques pensaient être des faits établis. Elle raconte des histoires plus rocambolesques les unes que les autres, comme le cas d'une femme qui porte en elle l'empreinte génétique de son jumeau évanescent, ou celui d'une mère qui transmet à son enfant des cellules que sa jumelle lui avait léguées in utero. C'est aussi ça le taf de journaliste, retracer des mystères scientifiques, aussi petits et discrets soient-ils.
Merci Cléo pour cette super chronique, c'était vraiment trop chouette.
Je voulais aussi rajouter que Lise Barnéou a été récompensée pour sa plume par la JSPI en 2017.
Et ben, vu la plume de ta chronique, on comprend pourquoi, si tu t'es inspirée de son travail. Et justement, ça donne une transition toute trouvée, parce que j'aimerais bien qu'on discute un peu des liens entre les journalistes et les scientifiques. Et tu as parlé de quelque chose de très intéressant, Cléo, dans ta chronique. Tu as parlé du fait de parler de la science malgré les débats qui persistent entre les scientifiques. Mmh.
Et donc, est-ce que je peux te couper ?
Ah mais coupe-moi, je t'en supplie.
Je vais juste rebondir sur ta chronique. Je trouve ça très intéressant ce que tu as fait là, parce que effectivement c'est ça la Merci. Science, c'est ça le journalisme scientifique, c'est cet émerveillement. Et tu disais que effectivement ça vient remettre en question des connaissances, mais c'est ça la science. C'est Montaigne disait que nous sommes possesseurs que de la science de notre temps. Donc il faut constamment le doute. C'est ça qui nous anime. C'est toujours remettre en question nos... Alors après, on pourra développer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire n'importe quoi et il ne faut pas tout remettre en cause non plus. Mais c'est cet émerveillement qu'il faut conserver. Et c'est cette façon de le raconter aussi qui est bien. Ça me fait penser à autre chose, ce que tu as raconté sur les cellules. Ça me fait penser par exemple à quelque chose d'extraordinaire en biologie. Les chercheurs, et, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, bien sûr que vous les connaissez, ces plantes qui se rétractent quand on les touche.
Ouais, oui.
Et donc il y a des expériences qui ont été menées. On met ces plantes sous la pluie. Alors évidemment, la pluie, ça les agresse. Donc les feuilles se rétractent. Et puis au bout d'un moment, la plante se dit bon, non, la pluie, pour moi, c'est bien. Donc évidemment, je suis un peu d'anthropomorphisme. La pluie, c'est bien, donc je ne me rétracte plus. Donc il pleut, je reste avec mes feuilles ouvertes. Et puis vous prenez cette plante, vous la rentrez chez vous et vous la laissez un an chez vous, deux ans chez vous à l'intérieur. Il ne pleut plus, évidemment, à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, la plante se régénère. Donc les feuilles, au bout de deux ans, ce n'est plus du tout les feuilles originelles. Vous remettez votre plante à l'extérieur, il pleut. Que font les feuilles?
Elles se rétractent.
Pas. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu transmission, là aussi, comme tu le disais, d'une certaine mémoire? Donc, c'est ça qui fait la force de notre métier de journaliste scientifique. C'est qu'on peut en plus s'émerveiller. C'est
incroyable.
Extraordinaire.
Oui, il y a plein de tons pour parler des choses. Pour revenir sur la question que...
Oui, excuse-moi, tu peux reposer.
Il n'y a aucun problème. Moi, je me pose vraiment la question pour parler des sujets controversés. Parfois, oui. On a l'impression que les lecteurs et lectrices sont en attente d'une réponse claire, de quelque chose qui va figer dans le marbre, une réponse à une question, et alors que le sujet, derrière, il est encore en débat au sein de la communauté scientifique. Comment on peut parler correctement de ces sujets-là et des sujets de controverse scientifique?
Exactement. Alors déjà, il faut faire une différence entre... Il faut expliquer ce qu'est une controverse scientifique et il ne faut pas la confondre avec une controverse médiatique. Donc, une controverse scientifique, c'est effectivement un débat entre scientifiques. La controverse médiatique, c'est autre chose. Par exemple, sur le réchauffement climatique, le changement climatique plutôt, il n'y a pas de controverse scientifique. Tous les scientifiques sont d'accord. C'est une évidence. Et après, quand on dit mais non, il y a une controverse, il y en a qui ne sont pas d'accord. Non. Tous les scientifiques sont d'accord, c'est pas parce qu'il y a deux Pékins qui ne sont pas d'accord qu'il faut leur donner la parole. Voilà. Il faut faire la balance, toujours. Et ça, c'est notre travail de journaliste de le faire. C'est d'arriver à comprendre ça. Et après, notre travail aussi, c'est d'arriver à expliquer que tout cela est complexe et demande du temps long et qu'on n'obtient pas une réponse blanche, noire, que ça demande des analyses. Et c'est toute la difficulté de notre métier. Comment on fait pour garder de la complexité et ne pas aller vers cette simplification dont les gens sont relativement friands, mais pas tous. Les gens sont quand même très demandeurs d'enquêtes longues. La preuve, il y a pas mal de magazines qui sont nés il y a quelques années et qui perdurent, qui sont sur le temps long, y compris sur les webs. Donc il y a un public pour ça. On peut ne pas simplifier.
Oui, mais et c'est quand même un sacré challenge quand tu es journaliste au sein d'une rédaction qui te demande d'aller vite, qui te demande de faire des vidéos courtes pour les réseaux sociaux. C'est difficile, je trouve, de s'affirmer en tant que journaliste. Moi, pour faire bien mon métier, je ne peux pas faire ça dans un temps aussi court et avec une réponse si tranchée.
Effectivement, mais c'est à nous, les journalistes de terrain, de le faire comprendre à nos rédactions. Et c'est pour ça aussi que nous, à la JSPI, on entre en dialogue avec les responsables des rédactions pour leur expliquer ça. Et nous formons, notamment, nous avons avec Radio France des accords pour former la rédaction de Radio France. Radio France l'a compris. Donc, elle demande à tous ces journalistes, généralistes ou autres animateurs, tout type de journalistes, de venir assister à nos formations pour apprendre ce qu'il faut savoir pour bien lire, pour bien comprendre ce que sont des faits scientifiques.
On ne peut pas vraiment en fait, informer sur les sciences sans souligner la nuance et la complexité qui se cachent derrière.
Exactement.
Et d'ailleurs, là, je me demande comment on fait, par exemple, pour rémunérer une journaliste qui fait de l'enquête? Parce que ça ne marche pas du tout comme les pigistes, je suppose, parce que ça prend beaucoup de temps, en fait, justement, pour aller creuser.
Alors, les rédactions, normalement, quand tu es indépendant et que tu proposes un sujet d'enquête, les tarifs, ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tu as des tarifs pour sujets que l'on te donne, que tu reçois dans ton escarcelle. Tu as des tarifs pour des sujets que tu apportes. Tu as des tarifs pour des sujets qui demandent de l'enquête. C'est pas les mêmes.
D'accord.
Voilà, donc... Mais alors, après, est-ce que c'est quand même rémunéré
suffisamment? Ça, c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet. Mais en tout cas, il existe des distinctions sur le prix du feuillet selon la nature du travail que tu fais.
Tu parlais des formations que vous proposez, on a parlé des apéros, et il y a aussi les journées sciences et médias qui sont organisées chaque année depuis 2012.
Oui.
Et la dernière en date, elle a eu lieu le 28 mars dernier à la Bibliothèque François Mitterrand. Elle était intitulée « Scientifiques et journalistes, qui contrôle qui ?» Et notamment parmi les prises de parole, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué parce qu'elles étaient l'une à la suite de l'autre, c'était celle de David Larousserie, qui est journaliste au Monde, et Jean-Baptiste André, qui est chercheur en biologie évolutive, et qui démontre le fait que, d'une part, il y a des journalistes qui enquêtent sur des dérives scientifiques, d'autre part, il y a des chercheurs qui dénoncent les biais dans les manipulations médiatiques, et parfois, il y a des zones de friction entre journalistes, entre scientifiques, et on peut avoir peur qu'on se tire un peu dans les pattes. Est-ce que c'est pas parfois contre-productif? Comment envisager dans le futur les relations entre journalistes et scientifiques?
Alors, ce que nous avons fait à la JSPI depuis quelques années maintenant, même quelques décennies, c'est une bourse d'échange. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Une bourse d'échange qui s'appelle l'échange journaliste-chercheur. C'est un vie-ma-vie. Donc, pendant une semaine, des chercheurs viennent en rédaction, des journalistes partent dans les laboratoires. C'est pas symétrique, hein, parce que sinon, il n'y aurait que les postés qui pourraient faire cet échange. Mais... les indépendants peuvent aussi aller dans les laboratoires. Comme ça, chacun voit comment on travaille. Et généralement, les chercheurs sont très surpris de voir la façon dont les journalistes travaillent. Déjà, ils sont surpris dans le bon sens. Déjà, ils disent, tiens, ils bossent. C'est vrai. Ils se rendent compte que c'est un vrai métier. Parce que le problème aussi qui se diffuse dans la population, c'est qu'on est tous journalistes. Il suffit de savoir écrire trois mots et on est journaliste. Mais c'est complètement faux. On est même journaliste généraliste. Ça demande, enfin, vous le savez bien, vous êtes formés pour. Ça demande des vraies connaissances. Comment on fait une accroche, comment on fait un chapeau, comment on fait une enquête. Ça tombe pas du ciel. Il suffit pas de savoir écrire. Bon, ouais, ça c'est une première partie de la réponse. Après, moi, je pense qu'il faut absolument pas confondre les rôles entre scientifique et journaliste. Nous pouvons collaborer, mais toujours en gardant nos places respectives. C'est vraiment très important de ne pas avoir une trop grande complicité, parce qu'il faut que nous gardions cette distance critique. Et il ne faut pas non plus que les chercheurs pensent pouvoir diffuser directement leur savoir. Je pense que ils peuvent le faire. D'ailleurs, ils ont une obligation, pour ce qui est de ceux qui travaillent en public, ils ont obligation de diffuser leurs connaissances. Mais ils peuvent le faire en tant que chercheurs. Mais nous sommes des passeurs. C'est-à-dire que nous prenons l'information, nous l'analysons, nous la décryptons et nous la rendons compréhensible. C'est tout un processus. Nous ne la simplifions pas, mais nous la rendons compréhensible au plus grand nombre. Et ce filtre que nous faisons, il est indispensable. Donc moi, je pense que nous pouvons travailler ensemble avec les chercheurs. C'est ce que la JSPI a fait dans les années 50 en se créant et en disant aux chercheurs, sortez de vos tours d'ivoire, venez nous expliquer ce que vous faites. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ait des relais. On n'est pas des échos. Nous, on est vraiment des passeurs. On travaille l'information.
On est des passeurs de science et la science, on l'aime. Surtout Ilona qui n'en a jamais assez et qui nous propose cette pause musicale Just Can't Get Enough de Depeche Mode. À tout de suite.
I just can't get enough. can't get enough, I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, on est sur l'Happy Hour scientifique. On parle de journalisme scientifique avec Carole Châtelain, présidente de l'AJSPI, l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. On peut reprendre notre interview. Sacha, tu avais
une... Oui, j'avais une question, parce que juste avant, on parlait de la relation entre journalistes et chercheurs, voilà, qui sont des secteurs distincts et où on doit garder une distance critique, qui est à juste titre. Mais ils se développent, et notamment récemment avec l'enquête de Stéphane Aurel sur la pollution au PFAS, les polluants éternels, qui a travaillé avec des scientifiques pour faire son enquête et démontrer l'ampleur de cette pollution et aussi le lobbying industriel qu'il y avait derrière. Avec une pratique qui s'appelle l'expert review journalism. Carole Châtelain, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se développer à l'avenir?
Oui, je pense que c'est une des façons d'informer désormais. On l'a vu avec les autres, dans d'autres domaines, avec les Wikileaks, toutes les enquêtes qui ont été faites comme ça, qui sont des enquêtes internationales, qui mettent en jeu plusieurs journaux, plusieurs disciplines, etc. Alors effectivement, nous avons récompensé d'ailleurs Stéphane Aurel pour les GSPI, lui a remis son prix du journaliste scientifique l'année dernière pour ce travail. Effectivement, elle collabore. Il collabore avec des chercheurs. C'est normal, il faut aller à la source, il faut aller chercher l'information. Mais ensuite, ces journalistes-là gardent toute leur indépendance de publication. S'ils trouvent des résultats qui ne conviennent pas aux chercheurs avec lesquels ils collaborent, j'imagine qu'ils en discutent largement et qu'ils gardent toute leur liberté de publier. Mmh. C'est ça l'intérêt. Et là aussi, dans la table ronde que nous ferons pour nos 70 ans ce samedi 24 mai, nous traiterons ce sujet-là aussi avec les journalistes qui sont en direct sur des chaînes YouTube, qui ont leur propre chaîne, par exemple. Ils collaborent aussi avec des journalistes directement. Et certains, par exemple, pensent à faire signer des chartes. Parce que parfois, certains ont même des partenariats pour des questions économiques dont on parlait tout à l'heure. Ils ont des partenariats avec des grandes institutions qui les soutiennent financièrement. Mais ils font signer des chartes en disant « Nous gardons notre liberté éditoriale ». Ça a sans doute des limites, on en discutera. Mais il faut garder cette indépendance éditoriale.
Pour terminer sur cette interview, tu l'as remarqué, Carole, autour de la table et en régie, tu es entourée d'étudiants journalistes scientifiques ou de très jeunes journalistes. On est preneur de tes bons conseils. Toi, quand tu as commencé dans le journalisme scientifique, quels conseils tu aurais aimé recevoir et donc quels conseils tu pourrais nous donner?
Alors moi, le conseil que je vous donnerais, mais je pense que vous n'en avez pas besoin parce que vous l'avez, c'est de garder fraîche cette curiosité que vous avez. Il faut absolument aller chercher l'info, avoir cette envie de passer l'information, de vulgariser. Ça, il faut vraiment la garder. Et il faut garder son indépendance. C'est absolument indispensable. Et donc, c'est le conseil que je vous donnerais. Mais j'ai pas particulièrement de conseil à vous donner. C'est vous qui allez continuer le métier. C'est vous qui allez le faire évoluer avec les outils de votre temps. Et moi, je serais passionnée. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. J'espère vivre assez longtemps pour le savoir, parce que là on est vraiment à un moment de passage qui y a vraiment une acmé là dans notre métier. Il va vraiment falloir trouver une façon d'informer avec ces nouveaux canaux, ces nouveaux réseaux. Donc pas particulièrement de conseils, mais gardez votre enthousiasme.
Merci beaucoup. Merci. On verra ce que ça donne dans le futur. Mais on peut aller dans le passé avec le Caps ou pas Caps de Sacha qui va faire un peu d'histoire des sciences, c'est ça?
Et oui, on va replonger dans l'histoire du journalisme scientifique.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile.
Yeah. Alors pour cette 50e émission, je vous propose, lors de ce petit caps ou pas caps, de vous interroger sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire du journalisme scientifique. Alors première question, à votre avis, à quelle période est apparu le journalisme scientifique?
Est-ce que c'est plutôt à l'Antiquité? Est-ce que c'est plutôt au Moyen-Âge? Est-ce que c'est plutôt au XVIIe siècle? Ou est-ce que c'est plutôt au XIXe siècle?
Quelqu'un se souvient de nos cours d'histoire des médias quand a commencé le journalisme? Parce que déjà, ça peut enlever des périodes de l'histoire.
Alors,
Malheureusement, je ne m'en souviens pas.
Donc oui, on va... Oui.
Mais de toute façon, la question, c'est sur le journalisme scientifique.
Ah, attention.
Non, tu as dit journalisme, j'ai mal écouté.
J'ai dit journalisme scientifique.
Tu as dit journalisme scientifique. Donc moi je vais dire le 19e. Hein.
Ouais, moi, moi j'aurais dit 17 ou 19. J'aurais pas dit si tôt. J'aurais pas dit si tôt.
Ah.
Moi je dis joker.
Ah là là.
Moi, je me souviens de la première. Attends, il y avait le magazine avec les expériences là.
Je vous ai piégé parce qu'en fait, les premières publications scientifiques destinées à un public averti apparaissent au XVIIe siècle, en même temps que la naissance de la science moderne. Newton, Copernic, Galilée, la gravité, l'héliocentrisme, le fait qu'on tourne autour du soleil et pas l'inverse, et puis plein d'autres choses qui vont suivre. Mais ceci marque plutôt les débuts de la communication scientifique structurée et pas du journalisme scientifique à proprement parler. Donc dès 1668, il y a le Journal des Savants qui apparaît en France, puis Acta Eruditorum en 1682 en Allemagne, ou encore Philosophical Transaction en 1683 en Angleterre. Ces revues visent principalement des savants, mais elles ont jeté les bases de la diffusion régulière des connaissances scientifiques. Mais ça, c'est pour l'Occident, bien sûr, car j'ai pas les datas pour les autres régions terrestres. Deuxième question. Alors, à votre avis, à quand remontent les premières traces de journalisme scientifique destiné au grand public? Pas de proposition cette fois, je vous laisse débattre.
Super. Alors moi, ça me ramène vraiment beaucoup au cours du coup qu'on a eu avec...
Je m'en suis servi d'ailleurs.
Très bien. Carole, est-ce que tu as eu une idée? Est-ce que tu pourrais nous aider peut-être?
Non, je vous laisse ramener.
Elle nous laisse.
Ah, super.
Il nous a parlé de grand public. Et moi, grand public...
Ça veut rien dire.
C'est assez récent. C'est les
grand
moments.
Public.
Mais on pourrait faire un flip 1955, création de la JSPI. Avant, il n'y avait rien.
Ça serait un peu, en vrai, je vous ai
encore piégé.
Oh, c'était pas si clair.
Parce que
tant de pièges.
Un des premiers ouvrages connus, c'est Le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui est paru en 1632, écrit par Galilée. Mais là, il s'agit de vulgarisation scientifique.
Oh là là.
C'est toujours pas du journalisme. Cependant, c'est écrit en italien et non en latin. Et l'italien, c'est alors une langue plus populaire que le latin, ce qui en fait un premier pas vers la diffusion des connaissances en dehors des sphères savantes. En France, un peu plus tard, en 1686, on a les Entretiens sur la pluralité des mondes de Bernard Le Bouvier de Fontenelle. Dedans, il y expose des connaissances astronomiques sous forme d'un dialogue accessible qui représente une conversation entre un philosophe et une duchesse. Le succès du livre est tel qu'il vaut à Bernard Le Bouvier de Fontenelle une place à l'Académie des sciences, où il devient secrétaire perpétuel. Ce poste lui a permis de poursuivre un travail de diffusion des connaissances auprès d'un public élargi. Il voyait dans ses œuvres une occasion d'instruire et de divertir par la même occasion. Fontenelle, par la manière claire, lucide dont il exposait les travaux de l'Académie, concourut à répandre le goût des sciences, plus peut-être qu'aucun de ceux qui en traitèrent de son temps, raconte Georges Cuvier, cité dans le livre « Histoire de la vulgarisation scientifique avant 1900 » de Guy Vautrin. Bon,
quel suspense.
T'as fini de nous piéger ou pas?
Trêve de bavardage, je reviens aux questions. Du coup, avant de tripler ma question, peut-être que je vais vous demander quand est né le journalisme, tout court. Alors selon vous, quand est apparu le premier journal? Plutôt au 17e, plutôt au 18e, avec la révolution qui approche, ou plus tard?
Il y a Jocelyn en régie qui a peut-être une réponse.
On t'écoute, Jocelyn.
J'ai envie de dire au 17e, avec les marasinades.
Oh, c'est ça,
comme ça.
Il dit des mots qui ont l'air savants.
Il dit des mots qui ont l'air savants.
Il a l'air de savoir, surtout.
Eh bien, moi, de mon enquête, de mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est en 1605, au tout début du 17e, du coup, avec Johann Carolus, qui est un imprimeur et relieur alsacien, qui édite le tout premier journal moderne imprimé, donc il fallait que l'imprimerie soit là, intitulé « Wundemann und Günther Farkenschen Historien » ou en VF « Relation de toutes les histoires importantes et mémorables ». Chaque numéro est publié de façon hebdomadaire. Il traite des conflits militaires et des mouvements de troupes, des décisions politiques diplomatiques, des événements religieux et des proclamations officielles, mais aussi des catastrophes naturelles et des phénomènes journalistiques. De là à dire que le début du journalisme scientifique traité d'environnement, il n'y a qu'un pas. Est-ce que vous avez une idée de quand date le premier journal publié en français?
Ouais, mais du coup, est-ce que c'est pas les petites mais je sais plus le nom, j'ai plus le titre. Mais non, ce petit journal avec les qui donnait justement des manières
là,
de faire.
Mais là, c'est pas scientifique, c'est le premier journal en français.
Là, on reste sur le journalisme.
Pardon, je suis complètement
en français. La Révolution française, le français partout, ça doit être au niveau de la Révolution française.
Et non, on est toujours au 17e. Il s'agit de la Gazette, qui est fondée par Théophraste Renaudot en 1631 à Paris. Et la Gazette, c'est considéré comme l'un des premier véritable journal périodique. C'était publié de façon hebdomadaire en France et ça a disparu tard puisque ça s'est éteint en 1915.
Mais comment ils faisaient du coup s'il y avait des langues différentes un peu partout en France?
Aucune idée. Je pense que c'est resté très parisien et puis c'était un journalisme d'État, enfin très royaliste à l'époque. On n'était pas sur de l'enquête, de l'indépendance.
Qu'est-ce qu'on pouvait parler de journalisme, Sacha?
On ne sait pas. Mais venons-en donc au fait. Comment se nomme le premier journal destiné au grand public traitant de science? Est-ce qu'il se nomme Science et Vie? Est-ce qu'il se nomme Scientific American? Est-ce qu'il se nomme Le Magasin Pittoresque? Est-ce qu'il se nomme Drill Science Drill?
C'est Le Magasin Pittoresque.
Eh oui, bien joué, Elena. J'ai dit le magazine d'ailleurs, c'est Le Magasin Pittoresque, exactement, qui est fondé en 1833 par Édouard Charton. Il s'agit d'un journal illustré destiné au grand public. Il est considéré comme l'un des premiers à traiter de science car il vulgarisait les connaissances scientifiques de manière simple, accessible et attrayante, grâce à ses gravures notamment et à son ton pédagogique. Ensuite, aux États-Unis, on a le Scientific American, qui a été fondé en 1845, représente un des exemples les plus précoces du journalisme scientifique. Ce mensuel, il existe toujours aujourd'hui et il fêtera ses 180 ans cette année, comme Joe Biden. L'édition française du magazine, c'est pour la science, bien qu'aujourd'hui son contenu soit largement indépendant de sa version américaine. Et quant au petit bébé français Science et Vie, il est fondé en 1913. C'est un magazine de vulgarisation scientifique à destination du grand public aussi. Il traite de sujets variés, sciences fondamentales, technologie, médecine, espace, environnement, avec une volonté de clarté et d'actualité. Il est reconnu pour avoir démocratisé la science au XXe siècle en la rendant accessible et captivante pour tous, notamment en se déclinant dans des versions pour la jeunesse avec son titre Science et Vie Junior. Autre question.
Qui sera la dernière,
je pense. Qu'est-ce que le troisième homme ? C'est le petit-fils d'Adam? C'est le premier homme amélioré par l'IA? Ou c'est le journaliste scientifique idéal?
Ah non, mais je me souviens des troisième hommes.
Oui,
on avait eu des cours de médiation.
C'est le médiateur.
Ah oui!
La personne entre...
C'est celui qui fait la médiation, c'est pas forcément un journaliste.
Et c'est pas forcément le meilleur.
Bien joué.
Alors, je crois que ça vient d'un concept à la radio, non?
Ça a été théorisé par les chercheurs en sciences de l'information et de la communication Abraham Molls et Jean Ouliff. Le troisième homme est l'intermédiaire entre le savant et le public, on peut dire le passeur de science. C'est lui qui traduit le langage technique en langage courant, synthétise des savoirs complexes, raconte la science dans un langage accessible et relie deux mondes souvent éloignés, celui de la science spécialisée et celui du quotidien. Je crois qu'on arrive à la fin, donc je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup Sacha pour ce quiz très instructif. On arrive à la fin de notre émission. Merci infiniment Carole Châtelain d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute la team de l'Happy Hour scientifique qui était avec nous aujourd'hui. Ilona, Cléo, Sacha autour de la table, sans oublier Jocelyn à la Réal. Et quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, prochain rendez-vous de l'Happy Hour scientifique le jeudi 19 juin à 20h. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @hhscientifique, et à écouter toutes nos précédentes émissions en replay sur le site de Radio Campus Paris et sur Deezer. À bientôt!
Bon, ben, il y a mes cheveux, hein. À la prochaine. Et au revoir. Et puis, bon retour, hein. Au revoir, messieurs.